Le débat. BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris.
Présenté par Francis Laloupeau.
Le débat. BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du débat BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous de l'actualité sur nos deux radios partenaires. Je vous présenterai cette émission sans Liliane Yacha, qui profite de quelques jours de vacances bien méritées pourvu qu'elle ne s'y habitue pas. Voilà, au sommet de cette édition, l'actualité politique au Burkina Faso, marquée cette semaine par la mise en place d'un nouveau gouvernement dont la composition a été rendue publique ce jeudi 24 janvier. Quelles seront les missions et les orientations de ce nouveau gouvernement dans un contexte politique et sécuritaire particulièrement sensible? Explication dans cette édition avec nos invités. Autre actualité, la République démocratique du Congo, où le nouveau président Félix Tshisekedi a prêté serment le 24 janvier sous le regard du président sortant Joseph Kabila. Une passation de pouvoir inédite dans ce pays, dans l'histoire de ce pays depuis son indépendance. Une cérémonie vis-à-vis de laquelle la conférence épiscopale a pris ses distances. L'Église catholique s'installe-t-elle désormais dans l'opposition face au nouveau pouvoir? Explication avec nos invités. Enfin, le Soudan, où le président Omar El-Béchir fait face à une vague de contestation inédite. Une seule question désormais. Le régime en place depuis 3 décennies suivra-t-il à cette fronde politique et sociale? Regarde dans cette édition sur cette situation au Soudan. Voilà pour le sommaire. Notre grand témoin invité dans cette édition, débat BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris. Au téléphone avec nous depuis Ouagadougou, Eddy Komboigo, président du Congrès pour la démocratie et le progrès, le CDP, l'ancien parti au pouvoir au Burkina Faso. Eddy Komboigo, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Autre invité, notre confrère depuis Kinshasa, au téléphone, notre confrère Alain Diaté, journaliste indépendant. Alain Diaté, bonjour.
Bonjour, Francis.
Merci d'être là également. Petite fiche de présentation de notre grand témoin invité, Eddy Komboigo, expert comptable de formation. Vous avez été enseignant à la Faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université de Ouagadougou pendant une dizaine d'années, de 1994 à 2014 précisément. Membre du Congrès pour la démocratie et le progrès, le CDP, l'ex-parti au pouvoir, vous avez été élu en décembre 2012 député du Passoré, province du nord du pays. Le 11 juillet 2015, vous avez été investi par votre parti, candidat à l'élection présidentielle de cette année-là, mais vous avez été frappé d'inéligibilité, tout comme plusieurs de vos camarades à la présidentielle et aux législatives, prévues alors ces législatives en octobre 2015. En janvier 2016, vous êtes arrêté, puis inculpé pour complicité avec les putschistes du 16 septembre 2015, incarcéré à la maison d'arrêt et de correction des armées, la MACA. Vous serez totalement innocenté en décembre 2017 dans ce dossier du putsch contre la transition. Et lors du 7e congrès du CDP, qui s'est tenu du 5 au 6 mai 2018, vous avez été élu à la présidence de votre parti pour un mandat de 3 ans. Eddy Komboigo, vous serez notre grand témoin dans cette édition du débat BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris. On commence tout de suite avec le premier sujet, bien sûr, le Burkina Faso. La composition du nouveau gouvernement a été rendue publique ce jeudi 24 janvier. Fait notable, la nomination du Premier ministre Christophe Joseph Marie Dabiré, membre du Congrès pour la démocratie et le progrès, le CDP, l'ancien parti au pouvoir. Quel est le sens de cette nomination? Ce gouvernement saura-t-il apporter les réponses nécessaires aux tensions sociales, politiques, ainsi qu'à la situation sécuritaire particulièrement préoccupante, toutes choses auxquelles le pays est actuellement confronté? Première question pour vous, Eddy Komboigo. D'abord, une question sur votre actuel mandat à la tête du CDP, un ancien parti au pouvoir qui a subi, on le sait, de plein fouet le mouvement insurrectionnel de 2014. Est-ce que vous êtes de nouveau dans la logique de la reconquête du pouvoir?
Nous sommes en pleine logique de reconquête du pouvoir. C'est d'ailleurs le mandat qui m'a été confié les 5 et 6 mai 2018 lors du congrès ordinaire de notre parti où j'ai été élu et non désigné l'une des rares fois la première fois qu'un grand parti d'Afrique francophone est élu et non désigné. Mmh. Et nous avons donc un mandat de refaire vivre le parti, de le faire gagner, de reconquérir le cœur des Burkinabés, d'offrir une offre politique conséquente sur le Burkinabé pour reconquérir le pouvoir en 2020.
Pourquoi le mandat est simplement d'une durée de 3 ans? Votre mandat?
Ben, c'est statutaire.
Ah, c'est statutaire, d'accord. D'accord.
C'est statutaire de 3 ans.
C'est un mandat de 3 ans. Alors, Blaise Compaoré est toujours considéré comme le président d'honneur du CDP, non?
Tout à fait.
C'est ça.
Blaise Compaoré, une grande expérience.
Blaise Compaoré.
Et le fondateur de notre parti, nous lui rendons hommage encore en le reconnaissant toujours comme le président d'honneur de notre parti.
Blaise Compaoré qui est donc installé en Côte d'Ivoire hein, depuis l'insurrection de 2014. Est-ce que vous avez des concertations avec lui, avec Blaise Compaoré, dans l'exercice de votre mandat?
Certainement. Certainement. Blaise Compaoré, en Côte d'Ivoire, a une pensée positive pour l'ensemble des Burkinabés, une pensée positive pour les militants de son parti. Et donc, en tant que président du parti, nous avons des échanges constructifs pour le pays.
Vous voulez dire que vous présidez le parti en concertation avec Blaise Compaoré, installé en Côte d'Ivoire?
Oui, Blaise Compaoré nous donne beaucoup de conseils, de sagesse,
d'accord,
de tempérance et de pondération dans notre langage,
oui.
De conseils de travailler à l'unité du pays, à l'unité de nos militants, à la cohésion de notre pays, d'unité et surtout de savoir se donner le pardon mutuellement.
Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que vous co-présidez le parti, le CDP avec Blaise Compaoré?
Non, Blaise Compaoré est un président d'honneur.
Oui.
Je suis un président en exercice.
Parce que vous dites qu'il vous donne des conseils, il vous apporte ses avis régulièrement, il vous murmure à l'oreille peut-être quelques indications. Ça pourrait ressembler à une sorte de co-gestion, non?
Nous avons également ici un haut conseil dirigé par l'ex-ministre et l'ex-président de l'Assemblée nationale, Mélégué Traoré. Nous avons les anciens ministres, Premier ministre Luc-Adolphe Thiaw, nous avons d'anciens ministres, des ministres d'État, du président Compaoré, qui sont dans ce haut conseil, qui nous conseillent également.
D'accord.
Alors, donc nous voulons une direction collégiale, mais le président du parti reste Edith Pomoigo.
C'est ça. Alors, est-ce que le CDP s'est totalement remis hein, de... l'insurrection de 2014 hein, avec la chute du régime de Blaise Compaoré?
Le CDP est en train de se remettre. Le CDP vient de loin parce que vous savez que nous avons été martyrisés. Nos militants ont été écartés en 2015 lors des élections. On nous a donné pour mort. On a séquestré nos militants, emprisonnés pour les libérer quelques mois plus tard. Voire quelques années, comme moi-même, sans raison.
Mais on peut dire que la justice a fait son œuvre, puisque vous avez été arrêté, inculpé, puis innocenté. Donc, on peut dire que la justice de votre pays a fait son œuvre.
Mais seulement les dirigeants qui sont là, qui ont cet esprit de ségrégation, de division, et c'est toujours ceux qui gouvernent ce pays et ceux qui nous inquiètent. Le CDP travaille à se reconstruire. Le CDP est allé à un congrès ordinaire qui a connu un grand succès.
Oui.
Partout dans les 45 provinces, dans les 370 communes et arrondissements, le CDP est représenté. Et il y a que la semaine dernière, le CDP a réuni l'ensemble des secrétaires généraux de ses structures géographiques à Ouagadougou. Ils ont connu un succès. Et demain, samedi, nous avons un bureau politique national. Nous allons adopter un certain nombre de documents qui vont nous orienter sur comment renforcer nos structures géographiques.
Donc fondamentalement, le régime en place aujourd'hui, l'actuel pouvoir ne l'a pas empêché le CDP de continuer à exercer pleinement sa présence dans l'espace politique burkinabé.
Non, je pense pas qu'il nous ait empêché ouvertement. C'est toujours des subterfuges, empêcher tel ou tel, menacer tel ou tel militant d'emprisonnement, de harcèlement. Sinon, officiellement, non. Mais nous avons été suspendus, rappelez-vous, sous la transition, pour être pendant un mois et demi.
C'est ça.
Et la suspension a été levée. Donc aujourd'hui, nous pensons que le CDP s'organise calmement et sans provocation. Et nous suivons la gestion du pays actuellement.
C'est ça. Alors parlons, Eddy Kamboyego, de ce nouveau gouvernement mis en place cette semaine. D'abord, Est-ce que vous avez été surpris par la démission du désormais ancien Premier ministre Paul Kaba Atieba, qui a occupé ce poste dès 2016 après l'élection du président Roch Marc Christian Kabore, pardon. Il faut dire qu'aucune explication précise n'a été délivrée sur sa démission.
Non, en fait, nous n'avons pas été étonnés parce que, vraiment, même que ça a trop tardé, parce que depuis plus de 6 mois, les voix s'élevaient pour demander la démission du président,
du Premier ministre.
Du Premier ministre, Paul Kaba Atieba. Oui. Et on constatait 2 ans et demi plus tard que tout ce qu'il avait prévu comme Programme national de développement économique et social, ce qu'il appelle PNDS, est un échec cuisant. Absolument rien n'a été réalisé allant dans ce sens. Ce programme de développement PNDS s'est résigné aux seules exécutions budgétaires, dont plus de 60% passe dans le fonctionnement, dans les salaires, plutôt à peu près dans les salaires, et à peu près 20%, 20 à 30% même dans le fonctionnement, et nous n'avons que 4 à 5% dans l'investissement. Oui. C'est ridicule pour un pays qui veut se développer.
Comment expliquez-vous justement ce fonctionnement? C'est lié à quoi? À de l'incompétence, à de l'amateurisme, à une difficulté à mettre en œuvre une nouvelle politique?
Je ne voudrais pas donner des critiques subjectives sur la personne de Paul Kaba.
Non, mais je parle de son travail à la tête du gouvernement.
Par rapport à son travail, par rapport au mandat qui lui a été donné, je crois que Paul Kaba Atieba a échoué. Lamentablement, il faut le dire. C'est pourquoi je vous dis, sur le plan social, le front social, il y a des grèves fermées, des grèves continues. Et pendant son mandat, pendant 2017, nous avons compté plus de 270 jours de grève sur 360 jours. Alors, comment on peut développer un pays dans ce sens? Lorsque on se dit qu'on a les solutions et que l'on revient à la direction du pays, on doit pouvoir le faire. Sur le plan sécuritaire, vous l'avez constaté, le Burkina connaît ce qu'il n'a jamais connu depuis sa constitution des années de 2019 à 2000, reconstituée en 1945 et de suite jusqu'à son indépendance. C'est vraiment triste de constater chaque jour que des Burkinabés innocents et des braves Burkinabés tombent sans savoir pour quelle raison. Fait le Burkina pour mériter cela.
Est-ce que vous avez pu tirer, une analyse très précise de cette situation sécuritaire qui est tout à fait nouvelle, hein, parce que, comme vous le savez, dans le camp du pouvoir, on établit une sorte de coïncidence entre la chute de l'ancien régime, du régime de Blaise Compaoré, et l'émergence de ces nouvelles formes d'insécurité et de violence.
Permettez-moi d'abord que je m'incline encore sur la mémoire de ceux qui tombent aujourd'hui comme qui n'ont absolument rien fait, bien les civils, comme les militaires qui donnent leur vie pour protéger nos compatriotes et protéger notre territoire, pour leur amour pour en paix. Et je voudrais dire à leur famille que le CDT que je dirige est solidaire. Elles sont solidaires derrière les forces de sécurité pour qu'on fasse, nous battre pour que cela s'arrête. Maintenant, écoutez, gérer, c'est prévoir. Lorsqu'on vient à la tête d'un pouvoir, c'est qu'on a un programme. Et un programme pour pouvoir se développer, il faut d'abord être en sécurité. Il faut faire un diagnostic.
Je vous pose la question de savoir si vous, au CDP, vous avez fait une analyse des causes profondes de cette insécurité.
Dès le premier mois de conquête du pouvoir du président Roch, nous avons été attaqués au cœur de Ouagadougou. C'était un signal fort pour que le gouvernement prenne des mesures fortes et arrêter cela. Non, nous avons suivi un laxisme et nous avons laissé des bandits, je ne sais d'où ils viennent, des bandits sans visage qui viennent nous attaquer dans nos frontières et on conquis quasiment la moitié de notre territoire. Et c'est triste.
Vous ne m'avez pas toujours répondu sur les causes profondes, selon vous, de cette insécurité. Tout à l'heure, je vous rappelais que le pouvoir, dans le camp du pouvoir en tout cas, on a établi souvent depuis quelques mois une sorte de coïncidence comme ça entre l'émergence de cette nouvelle forme de violence dans votre pays et la chute de l'ancien régime. Que répondez-vous à cela?
Non, mais c'est ridicule de penser que c'est la chute de l'ancien régime ou ce sont des instigateurs de l'ancien régime qui est l'instigateur de ce qui se passe. Ceux qui font ce diagnostic, c'est ceux qui n'ont pas de solution à cause. Et ce genre d'attaque barbare, dite djihadiste, ou attaque tous les pays de la sous-région. Ils sont installés au Mali, ils sont au Niger. Et s'ils sont au Mali ou au Niger, il n'y a qu'une frontière. Ils auraient pu penser qu'ils allaient franchir cette frontière. Et pourquoi sur le régime ancien, ils n'avaient pas dépassé la frontière? Parce qu'on a dit gérer, c'est prévoir. Et ceux qui ont géré avec le président Blaise Compaoré, si tel était le cas, aujourd'hui, ils auraient la solution d'arrêter, puisqu'ils ont cette expérience avec le président Blaise Compaoré. Donc, n'allons pas tirer de conclusions hâtives et erronées. Non, je ne crois pas que ce soit lié à cela. Je ne crois pas qu'un seul Burkinabé aussi du niveau du président Blaise Compaoré ou un grand politicien puisse retourner des Burkinabés attaqués, des pauvres Burkinabés.
On a beaucoup entendu ça, ça a été dit, vous avez votre réponse, c'est dit Kombo-Yego, président du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, ancien parti au pouvoir, désormais dans l'opposition. Un fait notable dans ce nouveau gouvernement, Eddy Kombo-Yego, c'est la nomination d'un nouveau Premier ministre, Christophe-Joseph-Marie Dabiré, qui est issu de votre parti, le CDP. Alors, il y a ce commentaire de l'opposition qui a été rapporté par le site faceauxine.com que je vous lis à présent, je cite... Le pouvoir MPP, c'est-à-dire le parti au pouvoir, qui passe le temps à vilipender l'ancien régime, est aujourd'hui obligé d'aller chercher son premier ministre parmi les cadres éminents de cet ancien régime. Fin de citation. Est-ce que vous partagez cette opinion, Eddy Kombo-Yego?
Oui, c'est vrai que le premier ministre Dabiré est un militant du CDP. Je le considère comme tel parce que je n'ai pas, en tant que président, reçu une lettre de démission. Mais je reconnais simplement qu'il s'est longtemps éloigné des colonnes du CDP. Depuis 2015, je n'ai pas vu la participation de Christophe Dabiré comme membre du CDP. Nous avons également entendu que son épouse serait membre du bureau politique du MPP. Il y a des gens qui ont démissionné formellement et il y a des gens qui n'ont pas démissionné. S'il était inévitable, et il a été approché en tant que militant du CDP pour être Premier ministre, je crois qu'il aurait dû informer, il aurait dû même informer le président que je suis.
Ce qui n'a pas été fait, donc.
Ce qui n'a pas été fait. Donc, je ne crois pas qu'il ait été abordé en tant que militant du CDP, a été opposé en tant que militant du CDP. Il a certainement dû être approché en tant que Christophe Dabiré.
Il est quand même...
Et s'il est encore... allez-y. Il a démissionné. S'il avait démissionné du CDP pour être Premier ministre, je pense qu'il n'a pas suivi la règle. Ça manque un peu d'élégance parce que nous n'avons pas reçu...
Vous lui demandez de démissionner, donc? Ou de porter l'étiquette CDP au sein du gouvernement?
Nous prenons acte de ce qu'il a été. Aujourd'hui, et puisqu'il ne réclame rien du CDP, nous attendons s'il y a une réaction, nous accueillerons.
Attends, pour l'instant, il est présenté en tout cas avec l'étiquette CDP au sein du gouvernement.
Il est présenté par qui?
Il est présenté par ceux qui l'ont nommé, par l'opinion publique, par la presse. Et vous savez très bien, ça ne vous a pas échappé que la presse souligne cela fortement.
La presse, oui, mais pas le secrétaire général du gouvernement qui est le porte-parole officiel dans la nomination de ces ministres. Le secrétaire général du gouvernement n'a pas parlé du CDP.
D'accord. Écoutez, on va marquer une pause, Eddy Kombo-Yego. C'est une étape qui s'impose pour l'émission. On revient dans quelques secondes pour reprendre le cours de cette émission, de cette édition des débats BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris, avec vous, notre grand témoin Eddy Kombo-Yego, président du CDP, et notre confrère qu'on va retrouver aussi après la pause, Alain Diaté, journaliste indépendant, qui est au téléphone avec nous depuis Kinshasa. À tout de suite.
Le débat. BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris.
Présenté par Francis Laloupo.
Le débat. BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris.
Avec notre grand témoin invité dans cette édition, au téléphone depuis Ouagadougou, Eddy Kombo-Yego, président du Congrès pour la démocratie et le progrès, le CDP, l'ancien parti au pouvoir Burkina Faso, aujourd'hui dans l'opposition. Et notre confrère invité dans cette édition, au téléphone depuis Kinshasa, Alain Diaté, journaliste indépendant. Eddy Kombo-Yego, nous parlons donc de ce nouveau gouvernement qui a été mis en place cette semaine au Burkina Faso, dans votre pays. Nous parlions de la nomination de ce nouveau Premier ministre, Christophe-Joseph-Marie Dabiré, issu de votre parti, le CDP. Pour vous, en fait, c'est une... À vous écouter, c'est une sorte d'aventure personnelle, finalement, pour ce ministre.
C'est lui qui peut le dire. Je ne sais pas si c'est une aventure personnelle, mais en tout cas... le CDP n'a pas été touché, je peux être formel là-dessus, pour que sa désignation, encore moins la nomination des membres du gouvernement.
Est-ce que ce n'est pas un signal quand même qui est envoyé vers l'opposition? Parce que le fait de nommer un Premier ministre issu de vos rangs, ça pourrait être considéré comme une manière pour le gouvernement de rechercher des consensus nationaux sur les questions majeures qui travaillent actuellement votre pays, notamment la question de l'insécurité.
De leurs opinions, parce que nous sommes une opposition ouverte. Et nous entreprenons des contacts avec le président Rochmar Christian Kabore lui-même. Plusieurs fois, il nous a invités sur le code électoral. Nous lui avons envoyé des lettres également sur certaines questions. Et donc, il n'y a pas de raison qu'il nous donne des signaux tacites qui viennent nous parler directement. Il y a un chef de file de l'opposition, il y a des présidents du parti, il peut nous inviter à nous changer. Nous préférons cette manière de faire que de donner des signaux qui ne disent pas leur nom.
Donc vous voulez dire que, alors ça il faut le dire aux auditeurs pour qu'ils comprennent très bien, il n'y a pas eu de conciliabule, pas de concertation, pas de rendez-vous entre le camp du pouvoir et le CDP avant la nomination de ce Premier ministre.
Exactement, je suis formel là-dessus.
Oui. Parce qu'on pourrait aussi penser voilà, que dans une situation un peu compliquée aujourd'hui, parce que votre pays, évidemment, traverse une crise multidimensionnelle, crise sociale, crise économique, évidemment, la crise sécuritaire, bien entendu. Est-ce que, voilà, il n'y a pas comme ça une sorte de recherche, je dirais, d'union nationale, en tout cas, quelques passerelles entre l'opposition et le pouvoir, pour qu'à l'arrivée, vous soyez finalement tous comptables du bilan de l'actuel mandat?
Nous ne pouvons pas être comptables du bilan de mandat du président Kabore, d'autant plus que nous sommes ouvertement déclarés dans l'opposition et nous jouons le rôle d'opposant.
D'accord.
Alors, nous avons compris que lorsqu'on élit un président, il faut lui laisser le temps de dérouler un peu son programme. Nous avons lui avons donné un an en l'interpellant certainement lors de la deuxième année, qu'il était temps de faire une réconciliation vraie et sérieuse afin que toutes les ressources humaines et financières puissent contribuer au développement du pays, afin que toutes les sociétés, actuelles sociétés, celles d'hier, puissent contribuer à la relance économique, afin que tous les Burkinabés de l'intérieur comme de l'extérieur puissent travailler main dans la main afin de développer le pays. Nous avons créé un cadre de concertation que l'on appelle la CODER, où nous avons offert et demandé cette réconciliation. Malheureusement, je pense que nous n'avons pas été entendus. Le pouvoir en place a cru que demander la réconciliation était peut-être un signe de faiblesse, mais nous pensons que c'est un signe de grandeur, parce que ce qui prime, in fine, c'est l'intérêt général du pays, c'est l'intérêt des Burkinabés. Et nous l'avons offert, nous avons tendu la main n'a pas été prise, et nous constatons avec regret que le pays ne fait que s'enfoncer, et c'est la vraie descente aux enfers, aussi bien politique qu'économique.
Alors pas de réconciliation.
Et même sociale.
Alors pour vous, donc, ce rendez-vous de la réconciliation n'a pas eu lieu. Mais est-ce que réellement tous les comptes la période de la chute du régime de Blaise Compaoré, est-ce que tous les comptes de cette insurrection populaire ont été soldés? Parce que est-ce qu'il n'y a pas encore des contentieux non résolus, notamment les contentieux judiciaires?
Y a-t-il des comptes à solder? Je ne sais pas.
Oui.
Je ne sais pas de quoi vous parlez.
Il y a toujours...
Y a-t-il des comptes? Attends, le prochain quoi a-t-il?
Je pense par exemple aux dossiers judiciaires qui ne sont pas encore vidés.
Mais encore faut-il que l'on juge. Et je pense que il y a les anciens ministres, le dernier gouvernement du président Compaoré ont été inculpés tous par un haut coup de justice, à une exception près pour les ministres qui n'étaient pas présents lors de la prise de décision. De leur dernier conseil de ministre. Ils ont été inculpés depuis 2013. 2015. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu de jugement.
Oui.
Ils ne sont pas convoqués.
Oui.
Ils les ont emprisonnés. Oui. Ils étaient obligés de les remettre en liberté provisoire. Ils disent un mot. Est-ce que le gouvernement a vraiment envie de juger? Est-ce que le gouvernement veut utiliser comme un couteau qui plane sur la tête de ces politiques pour leur dire attention, si vous osez encore aller sur l'arène politique, nous allons activer ces gens. Donc c'est un outil, c'est malsain et c'est pas c'est politiquement désastreux pour notre pays.
C'est ça.
Et il faut donc qu'ils aient le courage, s'ils veulent juger les anciens ministres du gouvernement Compaoré, qu'ils le jugent et maintenant, et qu'ils donnent les verdicts. Je ne crois pas qu'ils soient pressés pour cela. Et on se pose la question, pourquoi? Et s'ils n'ont rien à leur reprocher, et bien qu'ils leur donnent un non-lieu, et puis on avance.
Comme ça a été votre cas d'ailleurs. Hein.
Non, chez moi, ça a été instruit. Ils m'ont jugé devant la chambre de
contrôle. Oui, il y a eu un procès, oui, évidemment.
Il y a eu un procès. Et puis, bon, ils ont trouvé qu'il n'y a pas lieu de me poursuivre devant la chambre criminelle. Mmh. Et donc, j'ai retrouvé la liberté. Et c'est ce qu'il faut faire également pour ces ministres-là, parce qu'ils ne sont pas coupables. Ils sont coupables de rien. Mmh. Absolument rien, nous pensons. Mais comme ils ont été inculpés, il appartient à la justice de le dire, je ne défends personne ici, mais c'est ce que je pense personnellement.
C'est ça.
Si la justice trouvait des chefs d'inculpation, et qu'ils le fassent et qu'on puisse les juger. À quoi ça sert d'inculper des gens pendant 3 ans et puis ne pas avancer? Il n'y a même pas d'instruction. Quand est-ce que vous allez juger ces gens?
Oui. Alors, on vous répondra dans le camp du pouvoir que le temps de la justice est un temps. Il faut laisser à la justice le temps qu'il lui faut pour évidemment faire son œuvre. C'est ce qu'on vous dira dans le camp du pouvoir.
Ah oui,
et le temps de la justice peut être très long parfois.
Non, et c'est instruit, ce n'est même pas instruit.
Ce n'est même pas instruit. Restez avec nous, Eddy Kombo-Igo. On va écouter notre confrère de Piquette avec nous, Kinshasa, qu'on n'a pas entendu depuis le début de l'émission, mais qui vous a écouté. Mais je vous ai laissé volontairement exposer le contexte burkinabé pour que Alain Diaté puisse saisir pleinement, évidemment, l'ambiance, le climat politique et social de Burkina Faso, afin qu'il nous apporte un commentaire général, voire éditorial. Alain Diaté.
Oui, effectivement, c'est un cas qu'on retrouve beaucoup en Afrique. Hein. Les membres de l'opposition qui se retrouvent du côté du pouvoir et on ne sait plus qui est finalement redevable à qui, qui est finalement redevable de tout ce qui est fait. Bon, ça arrive au Congo, ça arrive au Burkina, c'est arrivé dans plusieurs pays d'Afrique. Et ça, c'est une question qui est récurrente. Alors, comment la régler? On ne sait pas. Mais toujours est-il que ceux qui partent avec l'identité d'où ils viennent. Et ça complique un petit peu jusqu'au jour. Ou d'exclusion en exclusion, soit on est non aligné et on crée un parti, finalement, pour se positionner politiquement, ou on rejoint la majorité.
Mais dans ce contexte précis, c'est l'ancien parti au pouvoir pendant plusieurs années qui se retrouve aujourd'hui dans l'opposition face à cette formation qui aujourd'hui est aux commandes de l'État, le MPP.
Oui, alors, il y a un fait, et je pense que ça, c'est un peu le fait africain. Le fait africain, c'est que à chaque changement, il y a deux attitudes. La première, c'est que il faut punir ceux qui étaient au pouvoir parce que voilà, c'est arrivé comme c'est arrivé. Et puis, la deuxième position, c'est qu'on se rend compte qu'effectivement, on ne peut pas évacuer l'ensemble de ceux qui étaient là parce que la machine de l'État, sa gestion, s'apprend.
C'est ça.
Et quand on n'a pas géré, on a cette là. Donc on est obligé de faire référence d'une manière ou d'une autre à ceux qui étaient là. Et si on l'intègre comme tel dans la démarche, en expliquant notamment au peuple par son discours que ça ne peut se passer que comme ça, je pense que ce serait beaucoup plus facile d'avancer.
Il faut pouvoir donc expliquer à la population la conduite que l'on adopte. Merci Alain Diaté. Merci Alain Diaté. On va terminer sur cette actualité à Eddy Kombo-Igo, ce nouveau gouvernement. Alors, on parlait de ce premier ministre venu du CDP, ancien parti au pouvoir, mais en même temps, on note la présence de fortes personnalités du parti au pouvoir, le MPP. D'ailleurs, il faut dire que la plupart des anciens ministres sont restés au sein du gouvernement avec des portefeuilles évidemment qui ont changé. On parle notamment de l'arrivée au ministère de la Défense de Chérif Sy, qui a été président du Conseil national de transition et qui a été l'une des grandes figures de l'insurrection 2014. Quelle réflexion vous inspire l'arrivée à la Défense de Chérif Sy dans le contexte sécuritaire que votre pays connaît actuellement? Est-ce que vous lui faites confiance pour conduire ce ministère ou alors s'agit-il simplement, je dirais, d'une nomination politique?
D'abord, permettez-moi de rappeler qu'en tant qu'opposant, nous avons exigé la démission de du gouvernement Bonkaba Tiéba et nous avons exigé trois choses. Nous avons demandé à ce que dans les ministères stratégiques, on mette les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Nous avons également demandé qu'il y ait des quotas, un quota genre et qu'il y ait une participation effective des femmes.
Il y a des femmes aujourd'hui dans le gouvernement, demandé,
oui. Oui, mais pas suffisamment.
Sept.
Nous avons également demandé à ce que des mesures fortes soient prises pour que la sécurité revienne. Bon, si on fait une analyse rapidement, je pense que c'est au pied du mur que l'on reconnaît le vrai maçon, mais c'est un peu prématuré pour faire une analyse de fond, mais on va les voir à l'œuvre.
D'accord.
Mais d'ores et déjà, on peut dire que ce que nous avons demandé au président Kabore, c'est que les deux ministères clés de sécurité et de défense puissent être gérés par des professionnels. Mmh. Si au ministère de la Sécurité, le président Kabore est allé chercher un gendarme à la retraite, je le comprends parce qu'il a fait une déclaration claire dès le début de son mandat qu'il ne veut pas de militaire dans son gouvernement. Mmh. Il est allé prendre un gendarme à la retraite.
Oui.
Bon, c'est quand même un professionnel.
Et pour la défense?
Peut-être pour la défense, cela n'est pas le cas parce que vous constatez que c'est un de vos collègues, je crois.
Ancien journaliste.
Oui. Il est ancien journaliste. Je sais qu'il s'est fait essayer à l'école militaire au PMK de Ouagadougou à l'époque, mais il a dû abandonner pour suivre les études en journalisme.
C'est ça.
Il dirigeait un journal qui s'appelle Bendré. Par la force des choses, il a été coopté par la société civile comme président du CNT, et ce qui nous laisse un désagréable souvenir.
Le Conseil national de transition.
Le Conseil national de transition, ce qui nous laisse un désagréable souvenir, c'est que c'est l'homme qui est à la base de la loi dite Chérif, la loi scélérate, qui a exclu une bonne partie de nos camarades aux élections de 2015.
Oui.
Et c'est cet homme aujourd'hui qui est ministre de la Défense.
Oui.
Si tout le monde regrette cette loi, est-ce qu'on fait une prime, on donne une prime à ceux qui font le plus de bêtises dans notre pays? Non. Mais s'il est vraiment, il a vraiment des relations avec la défense, ou pour des militaires, en étant civil, eh bien, cela nous laisse perplexe. Comment a-t-il scellé ce genre de relations avec des hommes détenus? Et à quelle fin? Aujourd'hui, s'il doit diriger la défense, nous lui conseillons plutôt de s'entourer de techniciens et de professionnels aguerris et de ne pas prendre les choses à la légère. Parce que ce n'est pas au moment où nos frontières sont quotidiennement attaquées qu'il faut s'amuser à désigner un premier responsable, responsable à la légère.
On entend bien vos réserves, dit Kombo Igor. On va passer au deuxième sujet de cette édition. Le temps passe très vite. Deuxième sujet tout de suite.
Le débat Africa numéro 1 Paris, BBC Afrique.
Avec Eddy Kombo Igor, notre grand témoin et président du Congrès pour la démocratie et le progrès, le CDP. Et Alain Diaté, journaliste indépendant, au téléphone avec nous depuis Kinshasa. C'est notre confrère invité. On va justement se rendre en RD Congo. Le nouveau président Félix Tshisekedi a prêté serment ce 24 janvier. Sous le regard du président sortant, Joseph Kabila, prestation de service inédite dans l'histoire postcoloniale de la RDC. Une cérémonie vis-à-vis de laquelle la conférence épiscopale a pris cette distance, une investiture dans un contexte encore marqué par des tensions post-électorales. Et à la veille de la prestation de serment du président Tshisekedi, la CENCO, la conférence épiscopale nationale du Congo, a rappelé que les résultats publiés par la CENI, la commission électorale, et confirmés par la Cour constitutionnelle ne correspondent pas aux données en sa possession. Il faut dire que Martin Fayoulou continue d'affirmer qu'il est le véritable élu de cette élection avec, dit-il, 62% des voix. Alain Diaté, première question pour vous, justement. D'abord, très rapidement, dans quel est le climat à Kinshasa au lendemain de l'investiture du nouveau président, parce que nous enregistrons cette émission le vendredi, et cela s'est passé hier au Palais de la Nation à Kinshasa.
Bah, aujourd'hui, Kinshasa est encore un petit peu dans l'euphorie, hein, parce que bon, on a vu des images qu'on n'a jamais vues, pour la plupart des jeunes, et moi y compris, où un ancien président de Sénat de un nouveau président, il y a ce fait historique-là, qui est en train d'étouffer notre fait, qui est que bon, il y a quelques contestataires qui sont là, mais qui ils ne sont pas forcément dans la rue, les discussions se passent sur les réseaux et sur les lieux de travail, sur la réalité ou pas, mais il y a un fait, c'est qu'il y a quelque chose d'historique qui vient de se dérouler. Alors, les coalitions s'étaient faites sur le tout sauf Kabila, donc Kabila étant parti, il y a un peu comme une sorte de réserve de décence dans le sein des militants pour se dire on ne doit pas s'affronter avec violence, alors que celui que nous combattions est parti pratiquement, de manière inattendue. Mmh.
C'est vrai que l'équation était inattendue encore il y a quelques mois, hein, celle-là en tout cas. Et l'Église catholique qui maintient donc ses réserves à l'égard de cette élection. Est-ce que le mandat de Félix Tshisekedi va être marqué indéfiniment par le soupçon Alain Diaté?
Alors, la soutien de la population. Mais comme vous le savez, aujourd'hui la population, elle attend des effets rapides de la question de Félix Tshisekedi. Oui. Son discours hier disait qu'il y avait pas mal de choses qui devaient être faites, notamment la lutte contre l'impunité, la lutte contre l'évasion fiscale et d'autres, contre la fraude et la corruption, ainsi de suite.
Mais la libération des prisonniers politiques.
La libération des prisonniers politiques, qui je pense déjà aujourd'hui doivent être... on a commencé à les lister. Mais le temps lui est compté, parce que vous savez, ces choses-là, ça peut se faire, mais c'est surtout l'impact.
Oui.
L'impact sur la vie sociale. Et socialement, le Congo a connu des années très dures, où les choses ont évolué très difficilement, et aujourd'hui, tout le monde attend quelque chose de positif. Mais le problème, c'est par où commencer. Les médecins attendent qu'ils aient des meilleurs salaires, les professeurs d'université de même. Au niveau du primaire et du secondaire, c'est la même chose. Les fonctionnaires de l'État, ça va être difficile, il faudra un plan avec les projets à impact visuel rapide qui puisse rassurer tout ce qui sont derrière nous.
Oui. Alors, évidemment, la question de savoir si le nouveau président, de quelle marge de manœuvre va-t-il disposer pour mettre en œuvre sa politique, de quelle marge d'autonomie va-t-il disposer, parce que on a quand même un président qui a été élu et qui aura en face de lui des institutions, Assemblée nationale, Assemblée provinciale, Sénat, dominées par une majorité acquise à l'ancien régime. D'ailleurs, à cet égard, Monseigneur Fridolin Ambongo Besungu, archevêque de Kinshasa, a dit qu'il craignait que, je cite, « le même système continue avec le nouveau président ». Il faut dire que Martin Fayoulou, il faut rappeler, pardon, à Tshisekedi qu'il est issu du peuple. Alors, dans ce contexte, de quelle marge de manœuvre va disposer le nouveau président Alain Diaté?
Je crois que l'atout dont dispose Tshisekedi, c'est Vital Kamerhe, qui est l'artisan de l'élection de Kabila en 2006.
Oui.
Il est le dark homme du pouvoir. Et qui, pour les uns, pourrait être premier ministre, et pour les autres, pourrait être... président du Parlement. Mais dans le dernier discours du président de la République, la veille de l'investiture, il parlait plus d'une coalition plutôt que d'une cohabitation.
C'est ça.
Ça veut dire que pour les deux partis, il serait préférable qu'ils aient une coalition plutôt qu'une cohabitation.
Donc une coalition entre le camp qui a soutenu Félix Tshisekedi, qu'on appelle le CASH, hein, c'est-à-dire l'UDPS et associés, et de l'autre côté le FCC, le Front commun pour le Congo, la plateforme qui avait soutenu le candidat du pouvoir. Est-ce que Tshisekedi a d'autres choix que de céder à cette coalition?
Il est possible qu'il ait d'autres choix dans la mesure où aujourd'hui, alors que nous parlons, il semble qu'il y ait des tractations, menées d'ailleurs par Vital Kamerhe, qui est en train de chercher dans quelle mesure récupérer ceux des députés qui ont été élus pour le compte de la Mouka, donc de Martin Fayoulou, pour les rallier à CASH, ce qui pourrait rééquilibrer quelque peu les choses pour eux au niveau du Parlement. Et la question qui se posait, c'était d'ailleurs celle de savoir si Martin Fayoulou dit qu'il est le président élu, est-ce que les députés de la Mouka pourront aller siéger. on ne le sait pas encore, mais s'il siège, oui. Je crois que, faute d'un mot d'ordre clair de la part de Martin Fayoulou, Guitel Kamerhe pourrait les récupérer. Ben, si ce n'est pas le cas, ils seront bien obligés de négocier pour avoir une coalition, parce qu'il ne faut pas oublier, dans le contexte actuel, chacun est une garantie pour l'autre. Félix a fait un discours qui garantissait des relations publiques avec l'ex-président Joseph Kabila. Et l'ex-président Joseph Kabila, aujourd'hui, la lumière dans les relations. Félix Tshisekedi et quelques peu, ça garantit aussi de vivre dans la paix, quoi, dans les choix à venir.
Alors, dans le cadre d'une coalition entre le camp de l'ancien régime et le camp qui a soutenu Félix Tshisekedi, est-ce qu'on ne va pas assister à une architecture institutionnelle contraire, finalement, au vote exprimé par les Congolais, c'est-à-dire un désir de changement et de rupture avec l'ancien régime?
Alors là, je crois que de part et d'autre, on a besoin de marquer le changement.
C'est ça.
Du côté de Kabila, ça pourrait se marquer de quelle manière? Je crois qu'en changeant un petit peu les visages, c'est-à-dire que tous les vieux routiers qui étaient là depuis 6, 10, 12 ans, ou depuis sur la question au pouvoir, pourraient aller au garage ou dans des sous-postes. Loin de la visibilité quotidienne de la politique congolaise, et d'autres jeunes pourraient arriver, parce que quand vous écoutez, par exemple, le nom de ceux qui sont passés au Parlement, ce n'est pas forcément les habituels.
C'est ça.
Quelques-uns sont tombés, ce qui veut dire que voilà, il y a un besoin de rajeunissement pour pouvoir travailler avec un esprit d'ouverture par rapport à Félix Tshisekedi. Mais je pense que ces choses peuvent peut-être avoir été discutées avant, ou alors ça fait partie des tractations actuelles. Parce que dans les mouvements que nous avons, on voit très peu Vitel Kamerhe, et je pense que c'est lui qui est en charge de la gestion.
C'est ça. Alors, une dernière question avant d'écouter le commentaire de notre grand témoin Eddy Kamboigo. Alain Diaté, on parle d'un rapprochement possible entre Martin Fayoulou et le camp de Félix Tshisekedi. Alors, il faut dire que le contentieux électoral, post-électoral, est encore entier quand on écoute évidemment les partenaires de la MUCA, la coalition pro-Martin Fayoulou. Est-ce qu'on peut s'attendre dans les prochains jours, prochaines semaines, à un rapprochement inattendu, forcément, entre ces deux camps qui sont combattus devant le Conseil constitutionnel, devant la Cour constitutionnelle?
Je pense pour moi que ce serait la meilleure solution, parce que aujourd'hui, en termes d'image, et c'est assez, comment je pourrais dire, inédit au niveau africain, le contentieux électoral oppose deux opposants.
Deux opposants.
Ça fait. Les gens ont du mal à croire. C'est pour cela, par exemple, que les appels de la MUCA à descendre dans leur rue n'ont pas connu le succès escompté. Parce que pour les gens, ils se disent, l'essentiel pour nous, c'est qu'il y ait un début d'alternance. Les gens placent ça dans un processus historique qui pourrait aboutir peut-être dans 5, voire 10 ans à un changement total des choses. Alors, je pense que c'est là qu'il faut faire. Parce que si on n'est pas dans le jeu maintenant, on a 5 ans de chômage pratiquement. 5 ans, c'est difficile. L'UDPS a appliqué cette stratégie d'être en dehors des institutions. Elle l'a payé longtemps. Ça a quand même fait 37 ans. On attend 37 ans avant de les voir arriver. Quelle que soit la manière, avec contentieux ou pas. Mais ça a fait 37 ans qu'ils sont dans la lutte. Et aujourd'hui, par exemple, une des choses, c'est qu'ils ont beaucoup de combattants, mais très peu de cadres.
C'est ça. Oui, c'est ça. Mais merci beaucoup Alain Diaté de nous avoir éclairé cette situation très particulière en RD Congo. Eddy Kamboigo, quel regard vous portez sur cette alternance au contour, au complexe qui se déroule actuellement en République démocratique du Congo?
Je voudrais d'abord féliciter les acteurs de la politique du Congo et lancer un appel de privilégier le dialogue pour que le sang ne se coule pas encore sur notre continent. Et interpeller les politiques de l'Afrique pour que nous ouvrions mieux les yeux sur ce qui se passe. Il faut des élections libres et transparentes. Nous avons mis une organisation. Au Congo, une organisation a été mise en place. C'est la Commission électorale nationale indépendante, qui est l'organe qui est chargé d'organiser les élections avec des procédures de telle sorte qu'il y ait moins de plaintes, il n'y ait pas de fautes. Et parallèlement, on met des organes que l'on appelle des observateurs. Et donc, l'Église catholique, je suis catholique, je veux le dire, et il y a des choses qu'il faut dénoncer, des choses qu'il faut l'accepter, il faut l'accepter. Il y n'y a pas que l'Église catholique qui est observateur, il y a d'autres observateurs.
Oui.
Quel est le rôle des observateurs dans le processus d'organisation des élections? Est-ce que c'est un observateur pour conseiller ou un observateur comme contrôle dans le sens de vérification de la régularité et de la sincérité de l'opération de votation au Congo? Il faut donc, si c'est le cas, si c'est des observateurs pour conseiller, ben, mieux vaut que l'Église catholique joue son rôle de conseil. Si c'était un organe de contrôle de vérification de sincérité, il faut donc on le reprendre dans les textes législatifs du code électoral du Congo. Et d'ailleurs, et c'est ce qui pose des problèmes lorsque des observateurs s'élèvent pour dire que les élections n'ont pas été bien faites, alors qu'ils ne sont pas dans leur rôle en tant que tel. Lorsque les résultats sont proclamés et qu'il y a une voie de recours, et ils vont devant une cour qui approuve, et bien, les choses s'arrêtent là. Parfois, dit-on, la justice n'est pas toujours, ne donne pas toujours le droit qui nous a fait la décision qui nous plaît,
oui.
Mais c'est quand même la justice. Il faut d'abord que nous-mêmes, Africains, nous commencions à croire à nos institutions,
oui.
À nos institutions judiciaires et politiques. Si c'est le cas, et que l'on arrête cette mascarade au Congo, parce que le Congo a besoin de paix, le Congo a lui seul peut lancer une économie et développer la sous-région là-bas et même l'Afrique tout entière. Et c'est là où les Africains doivent pouvoir s'unir. L'Union africaine a bien donné un ton, mais c'est rétracté.
Merci.
Et c'est bon qu'on apaise la situation au Congo.
Merci.
Je félicite d'ailleurs le président Tshisekedi qui a été élu. Et je lui dis bon courage, qu'il travaille à l'unité de l'ensemble de ses frères, qu'il n'hésite pas s'il est nécessaire de s'ouvrir aussi bien à Fayoulou qu'à l'ancienne équipe de Kabila. Ce qui compte essentiellement, c'est les Congolais et leur bien-être.
On n'ira pas plus loin sur ce sujet parce que le temps passe très vite et sans transition, nous allons dire quelques mots sur la situation au Soudan, hein, 28 morts selon un bilan officiel, plus de 40 morts et des dizaines d'arrestations selon des ONG présentes sur place au Soudan. Tels sont les chiffres de cette vague de contestation en cours dans le pays depuis le 19 décembre dernier. Et à l'origine des manifestations, la hausse des prix de certains produits de première nécessité, notamment le pain, et aussi des médicaments, alors que les couches les plus modestes de la population sont confrontées depuis des années à une dégradation continue de leurs conditions de vie. Le pouvoir semble ne plus pouvoir offrir la moindre perspective d'un redressement de l'économie nationale. Alors très vite, le mouvement social s'est transformé en une contestation politique réclamant la démission du président Omar El-Béchir. Désormais, les rassemblements sont quotidiens dans le pays et la réponse du pouvoir, pour l'instant, c'est la répression. Alors selon vous, Eddie Kamboigo, est-ce que le régime de Khartoum peut survivre à ce mouvement dont les revendications sont devenues essentiellement politiques?
Ce que je souhaite aux Soudanais, c'est qu'il y ait toujours, on privilégie le dialogue qu'au désordre politique. Pour l'expérience du Burkina, nous avons connu ce que d'aucuns appellent l'insurrection, qui n'était rien d'autre qu'un soulèvement organisé pour conquérir un pouvoir.
Certains ont même parlé de révolution dans votre pays, comme aujourd'hui au Soudan, d'ailleurs, on parle de révolution.
Hein. Mais voilà. Aujourd'hui, ils disent qu'ils ont commis la plus grosse bêtise de leur vie. Alors, donc, on comprend. Lorsque l'on n'a pas une mesure dans la réclamation, dans la revendication politique, on pose parfois des actes démesurés avec des conséquences.
Vous ne pensez quand même pas que ce mouvement qui est en cours au Soudan a une certaine légitimité parce qu'il s'agit quand même de réagir à des conditions de vie de plus en plus difficiles, hein, que tous les observateurs ont observé depuis plusieurs années, et que le système aujourd'hui, enfin le régime est isolé, le régime n'a plus la capacité évidemment de répondre aux besoins primaires simplement de la population.
Oui, moi je suis toujours du côté des populations, mais encore faut-il que les populations aient raison.
Oui.
Chaque peuple mérite ses dirigeants. Comment est-il arrivé? Avec qui? Qu'il a fait? Quels sont les Occidentaux qui l'ont soutenu? Il faut que chacun la respecte.
Dans le cas du Soudan, c'est un régime qui est arrivé en 89 au terme d'un coup d'État qui avait été soutenu à l'époque par des groupes islamistes. Ce pouvoir est toujours en place aujourd'hui. On voit bien que ces marges de manœuvre sont réduites au fil du temps, en ce qui concerne en tout cas la gestion de l'espace économique du pays, même s'il y a d'un côté évidemment un petit groupe de privilégiés, hein, notamment l'armée, et de l'autre côté, la plus grande masse de la population qui aujourd'hui est confrontée à des difficultés élémentaires.
Oui, c'est vrai que l'ancienneté du pouvoir en place peut être la cause de la fragilité. Et c'est pourquoi il faudrait que nous ayons dans toute notre constitution la volonté de toujours changer. 10 ans, 15 ans, il faut une alternance. Mais l'alternance est dictée également par le peuple, celui qui va voter, celui qui va demander encore que ceux qui sont là puissent rester là.
Est-ce qu'il ne faut pas de temps en temps prendre acte aussi de l'usure du pouvoir aussi de temps en temps, Eddy Kombo-Higo?
Oui, ben, je n'en disconviens pas, mais c'est parfois les présidents ne sont pas totalement aussi indépendants comme vous le pensez.
Oui.
Dans certains pays, on les maintient. Je ne vais pas citer un seul pays, mais nous voyons des présidents qui ont 80 et plus de 80 ans, mais des Occidentaux les supportent et ils sont intouchables.
Oui.
Vous voyez, est-ce que je fais une confession ici? J'ai vu le président tchadien avouer qu'il était venu pour 10 ans et qu'il a été expressément demandé de changer la constitution pour rester au pouvoir.
Oui.
Et il a indexé, il a donné le nom du pays, il a demandé de le faire et il n'y a pas eu de démenti.
Oui.
Vous voyez, il faudrait donc que l'on redéfinisse nos relations, coopération avec nos ex-colonies, avec nos partenaires, de sorte que la gestion soit une gestion transparente, une gestion respectueuse, une gestion vertueuse.
Oui.
Si cela est garanti, je crois que les intérêts des peuples également seront garantis.
Peut-être en quelques secondes quand même, est-ce que vous pensez que la seule répression suffirait à faire reculer ce mouvement en cours aujourd'hui au Soudan?
Je suis contre la répression. Je vous l'ai dit tantôt qu'il faut que les gens discutent ensemble. Ce n'est pas par la répression, on ne peut pas faire calmer un peuple. Plus il y a de répression, plus vous
poussez
les gens à se révolter.
Merci.
Et donc dans cette révolte, on n'est plus sur l'essentiel, on est sur des questions subjectives.
Comme
vous l'avez dit, c'est de la révolte et non de la révolution qui a un contenu politique substantiel. La révolte, c'est l'énervement et on est emporté par une action.
Merci, Eddy Kombo-Higo.
On n'a pas d'offres à proposer par la suite.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Eddy Kombo-Higo. C'est la fin de cette édition. Eddy Kombo-Higo, président du Congrès pour la démocratie et le progrès, le CDP, l'ancien parti au pouvoir Burkina Faso, aujourd'hui dans l'opposition. Alain Diaté était avec nous, notre confrère, journaliste indépendant, il est avec nous depuis Kinshasa. Merci à lui. Et l'émission a été réalisée à Paris par François Richard, chargé de production, Richard Thierry Mboué Kijina. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur nos sites respectifs, africa1.com, bbcafrique.com. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du débat BBC Afrique, Africa numéro 1, Paris. Bon week-end à toutes et à tous.